Dieu est merveilleux. Nous allons continuer. Et le Saint-Esprit est là. Vraiment, depuis que nous sommes en train de prier, je sens l'onction de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de toucher plusieurs personnes. Et nous allons vraiment voir la gloire de Dieu vraiment pendant ces moments de prière. Donc, pour continuer la suite, on nous a parlé donc de la préparation du culte. Comment préparer les sujets. Et moi, je vais beaucoup plus parler de la vie de ceux qui prient, la vie d'un intercesseur. Comment un intercesseur doit-il prier, ou une intercesseuse doit-elle prier? Mais je vais parler vraiment au masculin pour ne pas compliquer les choses. Amen. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée. Au chapitre 2, au verset 8, je vais lire. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Je veux, c'est l'apôtre Paul qui le dit de la part du Seigneur. Que les hommes, donc les hommes, y compris les femmes, puissent prier en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. La vie d'un intercesseur c'est une vie de consécration. Et en priant, celui qui prie est un canal par lequel Dieu doit passer pour bénir les autres. Si le canal est bouché, rien ne pourra passer. Voilà pourquoi c'est important que ceux qui prient vraiment puissent mener une vie de consécration, une vie de la crainte de Dieu, une vie de sanctification. Si nous, si les personnes qui prient, nous qui prions, nous menons une vie de désordre, si nous sommes dans la distraction et nous venons directement, comme l'a dit Germain, nous venons directement pour prier, vraiment, nos prières ne monteront pas. Nos prières vraiment ne vont pas ouvrir le ciel. Il faut que les personnes qui prient soient des personnes vraiment qui sont, comme on vient de le lire, que leurs mains vraiment soient pures. Comment les mains doivent être pures? Cela veut dire que, comme je l'ai dit tantôt, que nos vies doivent être sanctifiées. Que le péché ne puisse pas vraiment être pratiqué dans nos vies. Il y a des choses qui peuvent arriver. On peut se mettre en colère, on peut peut-être accidentellement pécher, mais que la pratique du péché ne soit pas vraiment coutume dans la vie d'un intercesseur. Donc, pour définir, je peux définir un intercesseur. Qu'est-ce qu'un intercesseur? Un intercesseur, c'est celui qui intercède, donc qui prie en faveur des autres. Donc, qui prie en faveur de l'Église, qui prie en faveur d'une ville, qui prie en faveur d'une nation. Un intercesseur, c'est un don qui ne prie pas seulement pour lui-même, mais pour les autres. Un intercesseur est celui qui porte des fardeaux. Lorsque nous lisons la vie des hommes et des femmes qui ont intercédé, qui ont prié dans la Bible, c'était des porteurs de fardeaux. Ils ne regardaient pas à eux-mêmes, ils ne regardaient pas à leurs problèmes, ils ne regardaient pas à leur vie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous venons beaucoup plus à l'église pour prier pour nous-mêmes. Lorsqu'on parle de la prière ou d'une veillée de prière, nous venons beaucoup plus pour nous-mêmes et non pour les autres. La Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. Donc, un intercesseur, c'est un don pour les autres. Comment un intercesseur doit-il prier? Un intercesseur doit prier. Donc, on nous a parlé de la préparation. Donc, avant qu'un intercesseur puisse prier, avant que nous venions prier pour l'Église ou pour les autres, nous avons d'abord besoin de nous préparer nous-mêmes. On nous a parlé qu'on ne vient pas dans une réunion de prière comme si on venait peut-être dans un café pour prendre son café. Non, nous venons à l'église, nous venons à la rencontre du roi et nous avons besoin de nous préparer à la rencontre de ce Dieu. Donc cela, avant de prier, cela demande une préparation personnelle, parce que nous sommes des canaux, et pour que les canaux, vraiment, pour que le Seigneur puisse agir, cela demande aussi notre propre préparation. Donc si nous quittons peut-être le boulot, nous quittons nos maisons, on n'a pas eu le temps de nous préparer, lorsque nous venons au culte ou nous venons à une réunion de prière pour intercéder ou pour une activité quelconque, qu'est-ce qu'on remarque souvent? Au lieu de commencer à parler, de commencer à faire du bruit dans l'église, chacun de nous doit se mettre vraiment dans un coin, doit s'asseoir pour pouvoir être vraiment dans la présence de Dieu. Pourquoi on se prépare? C'est pour que l'onction de Dieu, pour que nous soyons vraiment en communication, en communion avec le Seigneur et aussi avec les autres. On peut venir en retard, mais tout de suite, il faut quand même un temps, quand même de préparation, même si on a les yeux ouverts, ou que nos pensées vraiment soient connectées avec avec la pensée de Dieu. Hein, qu'est-ce qu'on remarque souvent? On arrive tout de suite, on ne sait même pas comment le culte a commencé, parfois on commence à parler ou on commence à prier, on n'a pas eu vraiment le temps de nous préparer. Et souvent, on se rend compte que nos prières sont stériles. Ou nous-mêmes qui avons prié, on n'a rien reçu, on est sorti de là comme on était venu. Donc la préparation est importante de l'intercesseur, où on quitte notre maison, on prend le temps vraiment pour se préparer. De la même manière que le prédicateur prend le temps dans la prière, de la même manière que ceux qui sont dans la louange prennent le temps pour arranger leur instrument, pour se préparer vraiment à leur chant, c'est pareil aussi pour les personnes qui viennent pour prier. Cela demande vraiment une préparation personnelle. Donc, il y a la préparation premièrement, et il y a aussi, nous devons avoir de bonnes dispositions de cœur. Comme on a lu, que tout homme puisse prier en élevant les mains pures. Donc, la sanctification. Donc, il y a la préparation, il y a de bonnes dispositions de cœur. On doit prier avec de bonnes dispositions de cœur. Et nous devons aussi prier avec fardeau. Si on n'a pas de fardeau, nos prières seront ennuyeuses. Pourquoi souvent on s'ennuie? Pourquoi lorsque nous prions, une minute, deux minutes, on a fini, on commence à se retourner, à regarder les autres autour de nous, parce qu'on n'a pas de fardeau. Si on n'a pas de fardeau, on ne pourra pas prier. L'œuvre de Dieu, c'est un fardeau. Notre famille, c'est un fardeau. En principe, à l'église, on ne manquerait pas vraiment de sujet de prière. Même nous-mêmes, on ne manquerait pas vraiment de quoi prier. Souvent, on remarque des gens, lorsqu'on demande aux gens de prier, souvent des personnes disent, oui, moi, je n'arrive pas à prier longtemps. Mais comment tu n'arrives pas à prier longtemps? Tu as une famille, tu as des amis qui ne connaissent pas Dieu. Autour de toi, il y a des personnes qui souffrent. Comment tu ne peux pas prier longtemps? Parce que si tu as des fardeaux pour ces personnes, tu vas prier longtemps. Tu vas prier, parce que tu vas commencer à prier par le voisin, tu vas prier, commencer à prier pour peut-être la copine ou bien ton patron au niveau du travail. Tu vas commencer à prier pour des personnes qui sont malades, tu vas commencer à prier pour ta ville. Tu vas prier facilement, tu vas arriver à une heure. Parce qu'il faut d'abord commencer pour aller plus loin. Amen. Et nous voyons que le fardeau est important. Daniel a prié à partir d'un fardeau. Et son fardeau était son peuple qui était en exil, son peuple qui souffrait. Et lui, le fardeau était que le peuple puisse retourner à Jérusalem. Et lui, il priait pour que Dieu puisse vraiment agir. Et nous voyons que Néhémie aussi avait prié à partir d'un fardeau. Toutes les personnes qui ont prié dans la Bible ont prié à partir d'un fardeau. Nous devons ressentir le fardeau dans nos cœurs. Si nous venons à l'église, nous venons à une réunion de prière simplement pour prier, nous allons prier seulement le dimanche ou nous allons nous arrêter là, arriver dans nos maisons, nous allons oublier tous les sujets qu'on nous a donnés. Nous allons même oublier de porter l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Mais si nous avons le fardeau, de la maison de Dieu, nous avons le fardeau de nos familles, nous allons toujours continuer à prier. Et un intercesseur, vraiment, la prière, c'est sa nourriture. Un intercesseur, c'est une personne qui est sensible. Dès qu'il y a un problème dans l'église, dès qu'il y a des rébellions, il y a des divisions, tout de suite, l'intercesseur ressent cela comme un fardeau. Au lieu d'attendre une veillée de prière, au lieu d'attendre que l'église puisse décréter un jeûne, c'est la personne elle-même qui va commencer à prier parce qu'elle a ressenti vraiment le besoin, elle a ressenti le fardeau. Et nous voyons que c'est important vraiment de porter des fardeaux du Seigneur. Prier avec fardeau nous permet de prier des heures et des heures. Vous savez, l'onction se communique. L'esprit de prière aussi se communique. Si tu vis avec des voleurs, tu vas finir par devenir voleur. Tu vis avec des drogués, tu vas finir par te droguer. Tu vis avec des hommes et des femmes de prière, tu vas recevoir aussi l'esprit de prière. Et il y a des personnes, la prière pour elles, c'est comme une respiration. Moi, j'ai prié avec des personnes. Vraiment, que tu pouvais prier avec ces personnes-là. Vous pouvez prier toute une journée. Elles ne vont pas se fatiguer. Vous pouvez prier, commencer une heure, deux heures. Parfois, tu te fatigues. Tu sors, tu reviens. Tu viens trouver la personne en train de prier. Tu te fatigues, tu es en train de bailler. Tu viens retrouver la personne. Ça te pousse à prier. Et au début, c'était difficile. Et après, c'était devenu quelque chose de facile. Parce que dès que tu entres dans la présence de Dieu, c'est fini, tu es parti. Parce que tu sais que les mots ne vont pas manquer. Tu vas commencer à prier. Il y a des sujets de prière. Tous les sujets qu'on nous a donnés ici, si tu commences à prier rien que pour chaque sujet, pendant 10 minutes, on a eu 10 sujets, 10 minutes, c'est beaucoup. C'est plus d'une heure. Et si tu ajoutes encore d'autres sujets, tu vas arriver à 2 heures. Et nous, par exemple, on a l'habitude, lorsque nous prions, rien qu'un seul sujet, on peut prendre 30 minutes. Des fois, toute une nuit de prière, on n'a que 3 sujets de prière. Et par sujet, on peut prendre 30 minutes, parfois une heure. Et les gens prient pour libérer l'esprit de prière dans la vie des gens. Parce que souvent, dans nos maisons, on n'a pas l'habitude de prier. Mais lorsque nous sommes ensemble, cela nous canalise, cela nous permet de prier. Donc l'intercesseur doit se préparer, il doit avoir de bonnes dispositions de cœur, il doit prier aussi avec fardeau et il doit aussi prier avec foi. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux 11 au verset 6 que or sans la foi, il est impossible. Hein? On peut nous mettre cela. Hébreux 11, 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un intercesseur doit avoir la foi. Parce que lorsque tu pries, tu dois aussi avoir la foi que la prière que tu as priée, que tu as adressée à Dieu, Dieu va l'exaucer. Si on n'a pas la foi, les prières ne seront pas exaucées. Si nous prions pour l'Église et que nous ne croyons pas que Dieu va agir, rien ne se fera. On ne verra pas l'exaucement. Donc nous-mêmes, en tant qu'intercesseurs, des personnes qui prient, nous-mêmes, nous avons besoin vraiment de manifester la foi. Pas la foi qui nous permet de croire en Dieu, la foi qui nous permet de croire en Jésus, mais la foi qui attire à l'existence, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. La foi qui croit que au moment où j'ai prié, ma prière, où j'ai prié pour la guérison de quelqu'un, j'ai prié pour la délivrance, j'ai prié pour une situation donnée, Dieu a agi. Et nous voyons comment Jésus, lui-même, l'intercesseur par excellence, il priait avec foi. Et quand il priait, il disait déjà à la personne, va, tu es guéri. Et celle qui acceptait la parole de Jésus était guérie. Et nous voyons comment le Seigneur avait prié pour les lépreux. Il leur a seulement dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et ils ont aussi agi avec foi. Ils sont partis et en route, ils étaient guéris. Et nous voyons que un intercesseur a besoin vraiment de manifester sa foi lorsqu'il prie. Parce que si toi tu doutes, tu es comme, hein, Jacques le dit, hein, on est comme l'eau qui n'est pas stable. Hein, il faut vraiment que nos prières vraiment soient vraiment faites avec foi et que Dieu puisse agir pour ne pas être vraiment comme des personnes qui sont en train de vaciller. Prier avec foi aussi, c'est en s'appuyant sur des promesses divines. Vous savez, toutes les réponses sont dans la Bible. Le Seigneur nous a dit que par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Si nous prions avec foi, nous allons nous appuyer sur cette promesse parce que nous savons que nous avons la foi que ce que le Seigneur a dit est vrai, va se réaliser. Et on va s'appuyer sur cette promesse en priant pour les malades que Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et je crois en cette parole et la prière que j'ai faite va agir. Si nous ne devons pas prier sans les repères, nous ne devons pas prier sans repère. Chaque fois que nous prions avec repère, la puissance, cela libère une puissance divine. Nous voyons aussi que Jésus, quand il était sur terre, je l'ai dit, quand il priait, hein, il disait, Père, je te loue parce que tu m'as déjà exaucé. Donc avant même de voir l'exaucement, il avait déjà manifesté la foi et il disait que je te loue Père parce que tu m'as déjà exaucé. Et cela doit aussi être notre attitude en tant que des personnes qui prient. Lorsque nous prions pour de nouvelles âmes, nous prions par exemple pour la libéralité, nous prions pour que l'œuvre de Dieu avance, nous devons déjà avoir déjà dans notre esprit que nos prières que nous sommes en train de prier seront exaucées. Et nous devons aussi, nous, en tant qu'Église, hein, le phare, déjà avoir la foi que tout ce qui s'est fait, les 2 mois que Germain a fait ici, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il est en train de proclamer, nous devons aussi avoir la foi que cela va agir. Si nous voulons voir ces choses se réaliser, nous devons vraiment accepter cela avec la foi que comme il a prononcé ses paroles, en tant qu'homme de Dieu, le Seigneur va accompagner ses paroles et nous allons voir ces choses s'accomplir dans nos vies. Amen. Et un intercesseur aussi, l'onction de Dieu doit accompagner sa vie. L'onction de Dieu doit accompagner la vie de celui ou celle qui prie. Lorsque nous lisons dans Luc 4, au verset 1, on nous dit que Jésus, quand il sortit du Jourdain, il était rempli du Saint-Esprit. Je prends son exemple parce que lui, il est le véritable intercesseur. Il était rempli du Saint-Esprit. Et Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit dans l'Esprit dans le désert pour aller faire quoi? Pour aller jeûner et prier. Pour aller jeûner et prier, pour revenir revêtu du Saint-Esprit. Nous lisons à partir du verset 14, on nous dit qu'il revint maintenant revêtu du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant qu'il va dire que l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour que les captifs soient libérés. Nous voyons la suite. Si Jésus, en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, il a eu besoin de l'onction de Dieu pour exercer son ministère, à plus forte raison, nous. Vous savez, même pour prier, cela nous demande aussi d'être remplis du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas contenté d'être rempli du Saint-Esprit. Il a cherché autre chose. Il a voulu être revêtu du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit, il y a une différence. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais être revêtu du Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Et Jésus a payé le prix par le jeûne et la prière. Et si nous voulons, en tant qu'intercesseurs, être rempli du Saint-Esprit, nos vies doivent être vraiment accompagnés de jeûnes et de prières. Nous devons vraiment nous consacrer au Seigneur. Et nous voyons qu'il pouvait maintenant avoir l'assurance de dire que l'onction du Seigneur est sur moi. Mais avant, il ne l'avait pas dit. Moi, je dis souvent, si Jésus l'a fait, il est passé par des moments de jeûne, mais il nous a montré l'exemple. Quel que soit ce que nous pouvons faire, même la prière, on a besoin de l'onction. Parce que l'onction dénoue les situations. L'onction ouvre des portes. L'onction brise le joug. Si nous sommes stériles, même si nous prions, il n'y aura rien. Parce que c'est l'onction vraiment qui nous enveloppe, qui accompagne aussi, qui nous accompagne dans la victoire. Et nous voyons aussi que dans la vie de Esther, Esther aussi avait intercédé. Elle a pris des décisions. Donc, un intercesseur, c'est quelqu'un qui prend de bonnes décisions au bon moment. On vient dire à Esther que son peuple sera exterminé. Hein? Esther 4, à partir du verset 16, je résume. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Aussitôt, elle va prendre une décision. Au début, elle avait hésité, mais elle va prendre une décision. Elle va dire à Mardoché, va rassembler les autres, priez pour moi. Mais moi, de mon côté aussi, je vais prier, je vais jeûner pendant 3 jours avec mes servantes. Donc, un intercesseur, c'est celui qui sait prendre de bonnes décisions et au bon moment. Elle n'a pas attendu parce qu'il y avait une situation qui était critique. S'il y a quelque chose qui se passe dans l'église, on ne va pas attendre, comme je l'ai dit, si on doit programmer les temps de jeûne et prière dans 3 mois. Mais non, en tant qu'intercesseur, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le fardeau. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous mobiliser. Même toi seul à la maison, tu peux prendre 2 ou 3 personnes avec toi. Tu vas commencer à prier pour arrêter, vraiment pour attirer vraiment la main de Dieu pour que Dieu puisse vraiment exaucer. Et nous voyons que Esther, quand elle a pris la décision, nous allons voir que Dieu va vraiment exaucer sa prière. Elle va même avoir l'audace jusqu'à fixer le délai. Mais elle avait l'assurance en elle qu'en fixant le délai de 3 jours, Dieu allait agir. Et nous voyons qu'après 3 jours, Dieu aussi avait répondu. Donc, sa prière était accompagnée de la foi. Sa prière était venue au bon moment. Donc, un intercesseur pour continuer, doit avoir l'assurance que ce qu'il est en train de faire, Dieu va se glorifier. Et Esther avait cette assurance-là que ce qu'elle est en train de faire, Dieu va se glorifier. Et nous voyons aussi qu'un intercesseur doit prier avec persévérance. On ne doit pas s'arrêter. On a prié, on n'a pas encore la solution, on a déjà arrêté. Et souvent, c'est ce qui se passe. Hein, les gens disent, moi, j'ai prié, je n'ai pas vu vraiment la solution. Maintenant, je laisse le Seigneur s'occuper de ce problème. Non, ça, c'est l'irresponsabilité. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a donné l'armure spirituelle, il nous a donné toutes les armes pour combattre. Il nous a montré le chemin par excellence, qu'est la prière. Nous devons prier jusqu'à la solution. Il faut que nous voyons l'exaucement de prière avant de passer à autre chose. Parce que le Seigneur nous recommande de prier sans cesse. De prier sans cesse. Donc, un intercesseur doit prier avec persévérance. Si nous prions pour une personne qui est malade, tant que la personne n'est pas guérie, nous allons continuer à prier jusqu'à ce que la personne soit malade. Nous prions pour qu'il y ait de nouvelles âmes, pour que l'Église grandisse. Mais tant que l'Église ne grandit pas, nous allons continuer à prier jusqu'à ce que nous voyons la main de Dieu. Vous savez, il y a des prières qui sont périodiques. Pour des cas de maladie, après la personne est guérie, on passe à autre chose. Mais le sujet de prière que nous avons donné, tant que l'Église va exister, ces prières seront toujours permanente. Donc nous allons toujours persévérer dans la prière. Nous allons toujours prier pour les enfants. Nous allons prier pour la libéralité. Nous allons prier pour les nouvelles âmes. Nous allons prier pour que Dieu touche les âmes. Nous allons prier. Donc il y a des prières qui sont permanentes que nous ne pouvons pas nous lasser de prier. Donc nous devons toujours continuer à persévérer. Et c'est le cas de Daniel. Si nous continuons dans Daniel 10 à partir du verset 2, hein, nous allons voir que Daniel avait entrepris un jeûne de 21 jours. Et nous voyons que dès le premier jour qu'il avait commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé sa prière. Mais s'il s'était arrêté avant les 21 jours, mais il n'allait peut-être pas voir la main de Dieu. Parce que lorsque nous prions, nous entrons dans le surnaturel. Il y a un affrontement spirituel aussi qui se fait. Parce que lorsque nous prions, il y a le monde invisible qui est là. Nous voyons que le cas de Daniel, il avait déjà commencé à prier, mais l'ange va venir le 24e jour pour lui dire, dès le moment où tu avais commencé à prier, il y avait déjà la réponse. Dieu avait déjà parlé. Mais il a fallu lutter pendant 21 jours avec le chef de Perse. Donc le chef du royaume de Perse, ce n'était pas le roi de Perse qui était là visible, mais c'était des chefs spirituels. C'était le chef spirituel qui était là et l'ange Michael, qui est un archange de combat, c'est lui qui est venu pour combattre. C'est lui qui est venu pour combattre jusqu'à remporter la victoire pour que Daniel puisse avoir l'exaucement. Il y a beaucoup de prières qui sont suspendues au ciel, qui tournent là parce qu'on a arrêté de prier. Les prières sont suspendues. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous allons voir que les prières sont suspendues comme des marionnettes. Et pourquoi? Parce qu'on a arrêté de prier. Et Dieu attend que nous prions pour que nous puissions vraiment entrer en possession. Et Daniel avait fini son jeûne de 21 jours. Ce n'est que le 24e jour qu'il va recevoir la réponse. Et souvent nous disons que nous avons prié, prié, mais quand nous prions, nous devons maintenant, on ne voit pas la main de Dieu, on change de stratégie. Un intercesseur doit prier avec des stratégies. Tout ce qu'on nous a dit ici, ce sont des stratégies dans la prière. Pour montrer, on essaie de prier pour que Dieu puisse agir. Il y a différentes sortes de stratégies. Comment prier pour la louange, comment prier pour ceci. Mais si nous prions, on a prié, on n'a pas de réponse, on change de stratégie. C'est comme les disciples qui avaient, les gens qui avaient amené leur enfant chez les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus n'ont pas pu guérir cet enfant sourd-muet. Et c'est Jésus maintenant qui avait chassé cet esprit et qui avait dit ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc lorsque nous prions, il n'y a pas de solution, nous changeons de stratégie. Peut-être qu'en jeûnant et en priant, Dieu va exaucer. Et lorsque nous jeûnons, cela nous permet aussi de tout mettre de côté et d'être en communion avec Dieu. Vous savez, il y a jeûne et jeûne. On peut jeûner, on prend le petit déjeuner le matin, à midi on prend une collation, entre-temps on prend un café et puis le soir, mais il y a jeûne et jeûne. Et on prie le matin, on prie à midi, on prie le soir, mais il y a jeûne et jeûne. Le jeûne, quand on dit que nous jeûnons, nous devons vraiment mettre ces moments de côté. Lorsque tu pries, prends même 2 heures, 3 heures du temps dans la prière et prie. Prie vraiment avec autorité, prie vraiment avec assiduité, qu'on sente le combat lorsque nous prions. Parce que lorsque nous jeûnons, l'ennemi se lève. Et là où il y a le combat, vraiment, on sent l'affrontement. On ne va pas vraiment faire des prières qui sont molles, mais ça sera vraiment des prières faites avec puissance et avec autorité. Et Dieu nous a montré, le Seigneur nous a montré l'exemple de l'ami opportun. La personne qui est là, qui est dérangée par son ami qui vient pour dire que moi j'ai reçu quelqu'un chez moi qui va venir frapper à sa porte plusieurs fois. Mais la Bible nous dit que la personne obligée de se lever et de lui donner ce qu'il demandait pour ne pas être dérangé. Donc cela veut dire que nous devons prier, continuer à frapper vraiment à la porte de Dieu jusqu'à ce qu'il puisse nous donner vraiment, qu'il puisse nous exaucer. Et il y a certains ministères dans d'autres pays où Ils ont des montagnes de prière. Donc, ils ont des lieux de prière où chaque personne peut, tu peux prendre ton mois de congé. Tu sais que moi, j'ai trois semaines de congé, ou un mois de congé. Tu mets tes vacances de côté, le plaisir de côté. Tu vas simplement là-bas pour aller prier. Donc, tu as un sujet de prière qui te tient à cœur. Tu vas là-bas et il y a des gens qui sont là spécialement nuit et jour, 24 heures sur 24, pour accompagner ceux qui viennent dans la prière. Et vraiment, il y a des exaucements de prière. Il y a des personnes qui avaient des cancers, des personnes qui avaient des maladies vraiment chroniques, incurables, qui partaient vraiment à ces montagnes-là, qui ont été guéries à cause de la persévérance. Donc, si nous voulons voir la main de Dieu se manifester vraiment au cours, lorsque nous prions, nous devons vraiment prier avec persévérance. Et un intercesseur aussi doit prier avec puissance et autorité. Le Seigneur avait dit, avant de partir dans Actes 1 au verset 8, il avait dit, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Nous devons prier avec puissance, témoigner avec puissance. Tout ce que nous devons faire, c'est avec la puissance de Dieu. Un intercesseur doit prier avec puissance et autorité. Un intercesseur, hein, lorsque nous prions, qu'on sente en nous quelque chose, qu'on sente en nous l'autorité, qu'on sente en nous la puissance de Dieu. Lorsque nous élevons la voix, que nos prières puissent entraîner les autres dans la prière. Vous savez, il y a certaines prières, quand on élève la voix, tout le monde n'est pas entraîné parce qu'il manque de puissance. Mais la prière faite avec puissance va entraîner tout le monde dans la prière. Va entraîner tout le monde dans la prière. Donc nous devons prier avec puissance et autorité. Parce que la puissance libère. La puissance, souvent on force les gens priant à haute voix. Pourquoi on pousse les gens à prier à haute voix? Même si nous sommes en train de prier pour l'église, on doit élever la voix. Prions à haute voix, c'est pour libérer la puissance, pour libérer quelque chose. Et pour que nous puissions apprendre à prier avec autorité et avec puissance. Et pour terminer, je voudrais dire qu'un intercesseur aussi doit cultiver en lui une vie de louange et d'adoration. Un intercesseur doit être un adorateur par excellence. Et nous savons que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Voilà pourquoi c'est toujours important, hein, de commencer les moments par la louange, de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, parce que l'adoration nous donne la sensibilité spirituelle. L'adoration nous fait entrer dans la présence de Dieu. La louange, hein, nous libère aussi. C'est important, lorsqu'on nous demande de louer le Seigneur, nous devons louer le Seigneur. Et en tant qu'intercesseur, nous-mêmes, avant même de prier, nous devons vraiment cultiver cette habitude-là de louer et d'adorer le Seigneur. Donc la louange et l'adoration attirent l'onction du Saint-Esprit. La louange et l'adoration préparent les cœurs. La louange et l'adoration, hein, nous donnent la sensibilité de l'Esprit. Nous permet de recevoir les révélations et nous ouvre aussi des portes aux dons spirituels. Pour ne pas me répéter, parce que j'aimerais déjà beaucoup parler de cela. Et la louange et l'adoration, hein, rend nos cœurs fertiles. Lorsque la parole de Dieu vient, les cœurs sont déjà préparés et il y a la semence qui germe. Donc lorsque nous prions, hein, la vie de l'intercesseur doit être accompagnée d'une vie de louange et d'adoration pour la sensibilité spirituelle. Tu ne peux pas être un intercesseur que tu n'arrives pas à louer le Seigneur, tu n'arrives pas à l'adorer, ce n'est pas possible. Un intercesseur, c'est un homme ou une femme de prière. Et la vie de prière, lorsque nous voyons, hein, la vie de Daniel, la vie de Néhémie, la vie d'Ézéchiel, de Jérémie, tous ces hommes de prière dans la Bible étaient en même temps des adorateurs. Hein, c'était des personnes, des hommes qui étaient sensibles vraiment à l'Esprit de Dieu, qui recevaient aussi des révélations. Hein, lorsque nous nous réunissons pour prier pour l'Église, on peut prier. Et on a fini l'intercession, on est parti. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Parce que lorsque nous nous réunissons, nous prions pour l'Église, mais Dieu doit nous parler. Si nous sommes 5, 6, 7, même 2, Dieu est là. Mais comment nous pouvons prier pour l'Église et repartir sans une révélation? Souvent, moi, je dis dans mon pays, je dis, vous savez, dans nos églises, quelqu'un peut même mourir. Personne ne recevra la révélation qu'il y a telle personne qui est dans la souffrance qui va même mourir demain. Parce qu'on est plus sensible. Nous prions, c'est devenu mécanique. Bon, ce sont des sujets de prière. On nous donne des prions pour les offrandes, on prie pour les malades. Mais on ne garde pas notre esprit. On ne cherche pas la révélation. On ne cherche pas la révélation. C'est devenu tellement mécanique que on ne cherche même plus la volonté de Dieu. On ne cherche même plus la révélation de Dieu. Et si bien que lorsque nous prions, on a fini, amen, et nous sommes partis. Et demain, nous revenons, nous prions, et c'est toujours... Non, lorsque nous retrouvons, nous prions pour l'Église, c'est pour que le Seigneur puisse aussi nous parler, nous révéler ce qui ne va pas. Et c'est ce que Habakkuk avait dit, hein, que j'étais à mon poste et je veillais. Il était à son poste. Dans Habakkuk 2, 1, il disait qu'il était là pour entendre ce que Dieu va lui dire. Lorsque nous venons prier, mais nous sommes à notre poste, on doit veiller pour entendre ce que Dieu va nous dire. Donc un intercesseur, c'est aussi celui qui écoute. Hein, le dialogue ne doit pas être monologue. Nous parlons à Dieu, nous devons aussi vraiment attendre que Dieu puisse nous parler. Dieu puisse nous parler. Et c'est pendant les moments de prière, souvent lorsque nous sommes dans les réunions avec les intercesseurs, lorsqu'on peut passer 2 heures, 3 heures dans la prière, après je demande qui a reçu quelque chose. Et après, finalement, tout le monde est calme, personne n'a rien reçu. Je dis, ah non, là nous ne sommes pas intercesseurs et nous ne sommes pas dans une réunion d'intercesseurs. Parce que les intercesseurs, ce sont des gens, hein, qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Et moi, souvent, je dis, une personne qui reste, par exemple, dans le groupe de l'intercession pendant une année, qui n'a pas une sensibilité spirituelle, je dis, donc, la personne-là n'a pas sa place dans l'intercession. Parce que cela va même de la vie de l'intercesseur. Parce qu'un intercesseur, ce n'est pas celui qui vient seulement prier à l'église, mais c'est celui qui cultive aussi une communion, une relation avec Dieu. Et souvent, le Seigneur montre les choses. Et quand nous nous réunissons, chacun commence à dire, regarde ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu ceci à l'église. Dieu m'a parlé. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il peut parler dans le songe, il peut parler par sa parole, il peut parler au cours d'un chant. Voilà pourquoi c'est important. Même lorsqu'une personne prie, Dieu peut te parler au travers de la prière de quelqu'un. Tout à l'heure, quand Virginie est venue chanter la chanson « Nous voulons voir Jésus », avant même que jamais ne lui dise de venir donner un chant, tout de suite, j'ai reçu cette chanson. Je commençais déjà à chanter la chanson et sans même qu'elle ne soit montée ici. C'est quand elle est montée, elle a commencé à chanter. J'ai dit, ah, Seigneur, vraiment, c'était de Dieu. Donc, Dieu voulait qu'en ce moment-là, que nous puissions chanter cette chanson. Et les intercesseurs doivent être des gens qui doivent être connectés. Voilà pourquoi souvent, lorsque le Seigneur dit que des personnes prophétisent et que les autres jugent. Mais si, hein, on peut, dans nos églises aujourd'hui, on peut nous donner des fausses prophéties. Voilà pourquoi aujourd'hui, les églises se divisent à partir des prophéties parce qu'il n'y a plus des gens sensibles qui écoutent la voix de Dieu ou qui sont sensibles pour écouter la vraie voix de Dieu. Quelqu'un peut venir, oui, je suis Dieu, je suis au milieu de vous. Hein, souvent, c'est ça. Hein, commence à dire des choses. Mais il n'y a personne qui peut juger la prophétie. Il n'y a personne. Parce qu'on est devenu tellement, vous savez, avec tout, tout est devenu tellement instantané que même la prière aussi est devenue instantanée. Tout est devenu instantané, rapide. Et on n'a même plus le temps d'écouter Dieu. Si nous voulons voir la main de Dieu se manifester dans nos vies en tant qu'intercesseur, si nous voulons voir vraiment les exaucements à nos prières, nous-mêmes, en tant qu'intercesseurs, en tant qu'intercesseuses, les personnes qui prient pour les autres, il y a des choses que nous-mêmes, nous devons mettre en place. Vous savez, des intercesseurs, souvent, hein, lorsqu'on est en train de prier, des personnes qui sont censées prier pour les autres, prier pour l'Église, tombent encore. Ce n'est pas normal. Cela veut dire qu'il y a des choses encore à mettre en place dans leur vie. Et des intercesseurs qui tombent, souvent, on leur dit non. Toi, tu dois d'abord t'asseoir, tu t'occupes de ta délivrance. Tu vois l'équipe de délivrance, tu commences à prier jusqu'à ce que qu'il n'y ait plus de manifestation dans ta vie pour que tu viennes. Parce qu'une personne qui est possédée dans le groupe d'intercession, ça sera un obstacle. Parce que comme a dit Germain, les esprits qui sont là empêchent, ça bloque, ça peut alourdir tout le monde. Donc c'est toujours important que, en tant que, hein, lorsque nous nous engageons vraiment à prier, que nos propres vies aussi soient vraiment des canaux vraiment devant le Seigneur. Qu'il y ait quelque chose, que l'onction de Dieu passe, qu'il n'y ait pas quelque chose qui obstrue vraiment la présence de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, pour conclure, je peux dire, nous sommes tous appelés à la prière. Hein, dans Ézéchiel 22, au verset 30, la Bible dit, Dieu cherche parmi son peuple un homme qui se tienne à la brèche pour qu'il ait, on peut projeter. Donc Dieu, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc il cherche un homme, comme il peut chercher une femme qui se tienne à la brèche, donc qui prie en faveur. Hein, comme j'ai dit, un intercesseur, c'est celui qui prie en faveur des autres. Donc Dieu, tout homme, toute personne est appelée à prier. Mais être un intercesseur, hein, être un intercesseur, tout le monde est appelé à prier, mais il y a ceux-là qui ont ce don. Prier pour eux n'est pas une corvée. Vous savez, il y a des personnes, quand on dit réunion de prière, c'est une corvée. Mais il y a d'autres personnes, pour elles, ce n'est pas un problème. Quand la prière est pour toi une corvée, cela veut dire que, pour moi, il n'y a pas ce don-là en toi. Mais quand la prière est pour toi quelque chose de facile, et on reconnaît vraiment ceux qui sont appelés à la prière, ce sont des gens qui prient longtemps, 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 et qui ont vraiment cette aptitude-là à prier, on le reconnaît. Et Ésaïe 62:1, il disait, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » Hein, pour conclure, on peut dire, « Pour l'amour du phare, pour l'amour de l'œuvre de Dieu, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. » Je ne peux que prier. Si on dit prions pour l'Église, prions pour ceci, pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Comme je disais au début, que lorsque nous n'arrivons pas à prier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons plusieurs personnes autour de nous qui ont besoin de prière. Si moi-même je n'ai pas de fardeau, il y a des autres qui ont vraiment des problèmes, moi je vais prier pour les autres. Donc, pour l'amour de ces autres, de ces personnes, pour l'amour de ma famille, pour l'amour peut-être de mon voisin, pour l'amour de l'œuvre de Dieu, je ne peux pas me taire. Je ne peux que prier. Amen. La prière pour l'Église doit être notre fardeau de tous les jours, car le temple, c'est un lieu de bénédiction. Vous savez, si nous sommes là, souvent je dis, c'est que les autres aussi ont eu à payer le prix. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a une onction qui nous a attirés dans cette église, qui a permis que nous puissions connaître le Seigneur. C'est la prière de ceux qui nous ont précédés qui a fait que aujourd'hui les uns et les autres soient là. Donc nous, en retour, nous devons aussi prier pour que les autres viennent au Seigneur. Donc le temple, c'est un lieu de bénédiction, de salut, de guérison et de délivrance. Hein, que les autres viennent trouver aussi ce que nous avons trouvé, trouver la joie, trouver la paix, la délivrance, la guérison. Et nous ne devons pas être sceptiques. Si nous avons la foi, nous allons dire que du moment où j'ai mis pied dans la maison de Dieu, mes problèmes sont résolus. Sont résolus. Souvent, nous traînons avec nos maladies, nos problèmes, parce qu'il y a quelque chose, nous n'arrivons pas à croire que Dieu est puissant pour faire quelque chose. Si nous savons qu'à l'église, on prie, mais nous, lorsque nous venons, nous savons qu'à l'église, on prie. Et moi, je vais manifester la foi que quel que soit mon problème, Dieu va agir. Parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans l'église, qui sont en train de prier. On prie souvent lorsque nous prions pour toujours, pour que Dieu guérisse les malades, que Dieu puisse vraiment aider ceux qui font leurs études, que Dieu puisse vraiment aider ceux qui ne travaillent pas, que Dieu puisse aider ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu puisse aider ceux qui n'ont pas, qui sont dans la stérilité, qui n'ont pas d'enfants. On prie pour, vous savez, l'église, c'est un tout. Chacun vient avec son problème. Et lorsque nous intercédons, nous devons toucher tous ces problèmes-là pour demander vraiment à la main de Dieu d'agir. On peut venir, on prêche la parole, un bon serment, mais si il n'y a pas la gloire de Dieu qui se manifeste dans les vies, nous aurons une église où tout le monde sera malade. Hein, vous savez, il y a des gens qui restent souvent longtemps, même une année, deux ans dans le coma à l'hôpital. Nous aurons beaucoup plus une église où tout le monde est dans le coma et il n'y a pas de vie. Mais si nous prions, Dieu va agir. Et ceux qui viendront, vraiment seront touchés par la main de Dieu et nous allons voir que notre église sera vivante et plusieurs personnes viendront. Donc le temple, c'est un lieu de vie. Et nous voyons que Anne, quand elle avait des problèmes de stérilité, elle est allée où? Dans le temple. Elle est venue prier dans le temple. Parce que là, le temple, Dieu, on prie dans le temple, il y a l'onction de Dieu qui est là. Et chacun de nous, quand chacun de nous vient dans le temple, il faut toujours se dire que là où je vais, il y a l'onction de Dieu. Je sais que ma prière, si je prie, il y a quelque chose qui va se passer. Et Anne, et quand elle est venue dans le temple prier, et elle a eu l'exaucement à sa prière. Elle est repartie, elle qui était stérile. Elle a eu Samuel, elle a eu d'autres enfants. Et nous voyons aussi comment Anne, la prophétesse, et Siméon ont pu voir le premier, la révélation, le Seigneur. Pourquoi? Parce que ils étaient dans le temple. Le temple, on ne doit pas négliger le temple. On ne doit pas négliger la maison de Dieu. Voilà pourquoi c'est important pour nous de prier toujours pour l'Église et pour que le Saint-Esprit puisse agir. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes là aujourd'hui, ce soir, nous sommes des canaux. Et chacun de nous va prier pour que quelque chose se passe dans l'église. Seigneur, utilise-moi par ma prière que vraiment quelque chose se passe, que les cieux s'ouvrent. Vous savez, il y a des personnes, quand elles prient, non, il y a quelque chose qui se passe. Hein? C'est comme l'apôtre Paul, quand les sept fils de Sheva, nous connaissons l'histoire, quand ils commençaient à chasser les démons, au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, sortez. Mais les démons, les esprits se sont manifestés, ils leur ont dit, nous connaissons Paul, et vous? Parce qu'ils savaient que Paul, quand il ordonnait, il y avait la puissance de Dieu, il y avait l'onction de Dieu qui accompagnait ce qu'il disait. Mais les autres, c'était comme de l'amusement. Donc lorsque nous prions, qu'il y ait vraiment l'onction de Dieu qui se manifeste dans nos prières, et c'est la clé pour ouvrir. Et le diable, c'est les gens qui ont la clé pour ouvrir le ciel. Et souvent, ce n'est pas facile. Hein? Il se lève, il commence à attaquer. Mais nous n'avons pas à avoir peur de l'ennemi, parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il y avait, disons, un frère qui avait donné un témoignage chez nous, parce que on demandait aux gens de s'engager dans les services, dans les différents services. Et il y a une sœur qui voulait s'engager dans le service de l'intercession. Et il y a une autre qui l'a découragée. « Ah, il ne faut pas aller là-bas. Tu vas entrer dans le groupe de l'intercession, mais tu vas vieillir. » Vous savez, là-bas, c'est le jeûne, c'est la prière. Hein? Donc, ils trouvaient que, le service de l'intercession, c'était un service qui était beaucoup plus difficile, difficile que d'autres services. Parce que les gens souvent vont facilement, vous savez, chez nous, c'est les grandes églises, donc il y a plus de monde. Souvent, c'est le groupe du protocole, donc l'accueil, et puis la louange, tout le monde est là-bas. Mais l'intercession, les gens ont peur, parce que l'intercession, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que chez nous, les intercesseurs, ils ont les gens qui ont l'habitude de beaucoup jeûner, ils ont des retraites à faire. Donc, ils disaient à l'autre, si tu vas là-bas, tu vas vieillir. Mais non, mais on voit que ceux qui sont dans l'intercession, Ce sont des gens qui sont encore plus bénis que les autres. Parce qu'il y a des moments de prière, vous savez, quand on reste dans la présence de Dieu, on prie pour les autres, Dieu ne va pas nous laisser. Il va nous bénir. Et nous voyons que lorsque nous prions, Dieu agit. Je vais prendre par exemple le cas du groupe de la louange. À l'époque, on devait faire une veillée de prière. Et on a pris le groupe de la louange pendant une semaine en retraite. Ceux qui travaillaient partaient travailler, ceux qui allaient à l'école partaient, et tous on se retrouvait ensemble pendant une semaine en jeûne et prière. Ils ne mangeaient que le soir. Et on a vu que pendant une semaine, quand on priait pendant 2 heures, pendant 3 heures, les délivrances ont commencé d'abord à s'opérer parmi ceux qui étaient là. Et le jour de la veillée de prière, on a commencé la veillée de prière à 21h jusqu'à 5h du matin. Vraiment, personne n'a dormi. Il y avait la gloire de Dieu. Quand le groupe a commencé seulement à chanter, il y a eu des manifestations dans la foule, les gens commençaient à vomir, il y avait des libérations. Pourquoi? Parce que le groupe de louanges s'était préparé dans la prière avant d'aller vraiment évangéliser. Parce que c'était une veillée de prière, on priait en même temps pour l'évangélisation. Avant d'aller, le groupe s'est préparé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et depuis, ils avaient compris les clés. On ne leur demande plus de prier, de jeûner. Ils savent que quand il y a une activité, eux-mêmes, ils préparent leur jeûne, les moments de retraite. Ils ont toujours des moments qu'ils préparent à part. Et chaque service, c'est comme ça. Parce qu'on a compris que lorsque nous prions, nous nous livrons à une bataille qui est spirituelle. On nous a parlé du combat spirituel. Et l'église, c'est un lieu de combat spirituel. Donc, lorsque nous prions, nous devons aussi savoir qu'il y a des enjeux qui sont là. Voilà pourquoi c'est important que nos propres vies soient préparées aussi devant le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever.